Hi everybody, welcome to Hafez Coffee Break. On this episode, we will be talking in French. So for those of you who don't understand, I'm really sorry, but we will be talking with Eduardo Gonzalez about music. So I'm switching to French. Bonjour Eduardo, comment ça va?
Ça va bien, merci et toi Jafet?
Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à te rejoindre à notre podcast en cette occasion.
Oh, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Donc, Eduardo Gonzalez, je vais te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est un bon ami que je peux dire ainsi, n'est-ce pas? Donc, c'est
absolument
une bonne connaissance, une belle amitié qu'on a jusqu'à date et c'est un plaisir de l'avoir avec moi. C'est un génie musical.
Oh,
moi, c'est
non.
Ce que... en tout cas, à mes yeux, je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais c'est un génie musical à mes yeux. C'est quelqu'un qui peut jouer n'importe quel instrument, ou presque, à ce que je connais d'ailleurs, n'est-ce pas? Il a étudié en musique. Il est très actif dans plusieurs églises. Il a son propre ministère. Il donne des cours de musique, n'est-ce pas? Tu peux me dire si je me trompe également.
Oh, c'est ça.
mais c'est Eduardo Gonzalez, comme je le vois. C'est ce que je vois quand j'entends ça. Un génie musical qui partage ses connaissances avec amour, patience et dédication avec ses élèves. Donc, si vous avez été un des élèves d'Eduardo, je suis sûr que vous pouvez corroborer tout ce que je viens de dire. Et si vous avez eu la chance de parler avec lui...
Non.
Non, Victor, non? Non. T'as quelque chose à dire avec ça?
Moi, j'ai pas aimé comment il m'a appris la guitare.
Ah non? OK, on va rentrer là-dedans un petit peu plus tard. Un témoignage de Victor.
Non, c'était cool.
Un ancien... étudiant, donc non, c'est pour ça que j'ai demandé que Eduardo soit là et que Victor aussi, hein, mon sidekick, mon co-host.
On a déjà
parlé
dans
de
les
ça.
Réseaux sociaux, tout le monde veut que je sois ton co-host.
Donc c'est officiel à partir d'aujourd'hui.
Je vais te payer.
C'est mon co-animateur, mon co-host.
Et je suis témoin de ça, moi, ouais, c'est merveilleux.
C'est pour ça que je l'ai fait maintenant, parce que sinon, il allait dire « arrête ça, on ne va pas faire la vie ».
Ouais, c'est ça. L'épisode ne va jamais sortir. Il s'en permet un petit peu. Donc... avant tout, je veux parler de mon café d'aujourd'hui. Avant qu'on rentre en matière, mon café de la journée. Je suis allé au Tim Hortons, comme tout bon Canadien, Tim Hortons, et j'ai demandé un Tim glacé. Attention, voici le twist. À la base de lait au chocolat, à la place de la crème, bien sûr, pour ceux qui m'écoutent, savent que je préfère du lait ou du lait au chocolat. Et un jet d'espresso. Vous devez essayer ça, c'est parfait. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. C'est un goût personnel.
Ce serait cool.
Mais Victor, on va en avoir des sponsors.
Un jour.
Ouais, donc, c'est ce que je bois présentement. Je vois qu'Eduardo aussi a son café. Tu es un buveur de café?
Pas trop. Des fois, j'en prends quand je suis fatigué seulement.
OK.
Ouais. Moi, mon café, ça prend du lait avec aussi.
Ouais.
J'aime beaucoup le lait. Puis du sucre.
Ouais.
Puis c'est tout simple comme ça.
Puis si je te dis... t'offres n'importe quel café, n'importe où dans le monde, n'importe quelle maison de café, quelle serait ta première option?
Bonne question. Ben là, j'ai un café, je peux-tu le dire? J'ai un café
ben oui.
Du... Je sais que c'est pas la même chose que toi, là. J'ai un café du McDo.
Ouais, du McDo,
j'hésitais
ouais.
de le nommer parce que je sais qu'on n'est pas...
On n'est pas sponsorisé, c'est ça?
Exactement.
On va pas se faire...
Un jour.
Un jour peut-être.
Fait que, moi, c'est ça. Moi, j'ai du café du McDo. J'ai pris une fois un café au Starbucks. Je veux dire, en fait, j'y vais quand même souvent.
Ouais, ouais.
Puis c'est bien là-bas, c'est très bien. Mais une fois, j'étais ailleurs dans le monde.
Ouais.
Puis je me suis dit, Starbucks, ça doit être du Starbucks ici aussi. Ça doit être un café normal. Déception totale. Le café était vert pour commencer.
Oh.
Mais c'est le café que j'ai pris, dans le fond.
Okay.
C'est ce que j'avais décidé de prendre en me disant, ça va quand même être bon, mais avec un petit goût d'ailleurs.
Ouais.
Alors, on dirait que j'hésite maintenant. si tu me dis, qu'est-ce que tu prendrais? J'aurais dit Starbucks, parce que je sais que ça va être pareil.
Ouais.
Mais je pense que je vais y aller avec McDo.
Peu importe café régulier.
Dans le monde. Café régulier,
ouais.
McDo.
Okay. Mm-hmm.
Deux crèmes de sucre. Ça risque d'être ce que je veux.
C'est parfait. C'est bon. Un double-double, comme on dit ici, au Canada.
Voilà.
Super. Victor aussi a son Tim glacé à base de lait au chocolat, n'est-ce pas?
Ouais.
Pas de jet d'espresso, par contre.
Non, ça, c'est trop.
Tu tiens à ton cœur.
Je tiens à ma pulsation qui reste
cardiaque.
Ouais. Sinon, t'es juste fou. Avec un jet d'espresso, non.
All
juste
right.
Une fois, tu m'as fait... C'est bon. C'est que c'est trop.
C'était trop.
Ouais.
C'est correct, c'est correct. C'est pas fait pour les faibles.
Ah, okay.
Ouais, okay. Bon, ouais. Bon, ça y est, donc avant que Victor me saute dessus, on va rentrer en sujet. Donc, on va parler de musique et quoi de mieux que de parler de musique avec Eduardo González. Qu'est-ce que la musique représente pour toi, Eduardo?
Mais pour moi, la musique, c'est vraiment... C'est un langage, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon d'exprimer quelque chose, pas nécessairement avec des paroles en plus, parce que souvent, on pense à s'exprimer à travers des mots, écrire des poèmes qui vont être mis en chanson éventuellement. Mais la musique a quelque chose de très profond aussi. Même si tu n'as pas de paroles dedans, tu transmets quelque chose avec les sonorités, avec les accords, avec les harmonies. Une même note peut avoir plusieurs significations selon ce qui se passe autour d'elle. Mm-hmm. Alors pour moi, la musique, c'est une façon de communiquer. C'est un langage complet. Il y a une façon de l'écrire, il y a une façon de la lire, il y a une façon de l'interpréter, de la parler, si on veut. Alors, c'est vraiment ça pour moi. Puis, il y a une phrase que je dis souvent à mes étudiants. Ouais. La musique, il faut d'abord qu'elle soit en toi, que tu la sentes, toi. Il faut que tu te dises, la musique est en toi, mais l'instrument, c'est juste un outil pour la faire sortir. Mm-hmm. Alors, c'est ça pour moi. C'est vraiment...
Pour la matérialiser.
Exactement, exactement. Parce que tous ces sons, toutes ces choses, on les entend premièrement intérieurement. Mm-hmm. Puis si tu les entends intérieurement, tu peux les extérioriser et les communiquer aux autres.
Oui. Moi, c'est là que je diffère un petit peu. Moi, j'en ai beaucoup dans ma tête, mais ça sort jamais. Mais, mais c'est ça. Mais je sais que c'est avec la pratique, n'est-ce pas, et le temps, la dédication, qu'on réussit à maîtriser le tout, non?
Oui.
Puis, qu'est-ce que... Puis on peut le voir, en fait, comme ce que tu viens de dire, on peut le voir même au cinéma, hein, le rôle que ça joue, la musique. Il n'y a pas nécessairement de paroles, mais tu peux voir... ce qui se passe dans l'écran, et tu sais qu'il y a un genre de musique qui va aller avec ce qui est en train d'arriver. Exact. Et tu sais que ça peut être un film d'horreur, ça peut être un film de tension, de drame ou tout ça. Donc, il y a un type de musique qui est utilisé pour tout ça. Donc, c'est incroyable. Quand on le met dans toutes les perspectives, on voit que la musique est un petit peu partout. Et sans musique, ça serait très vide et très triste comme monde. N'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est ça. La musique, vraiment, vient donner le sentiment, dans le fond, que tu veux... par exemple, tu parlais de film, fait que tu peux mettre une image avec une certaine musique, puis l'image va te sembler peut-être nostalgique ou triste, puis tu mets une autre musique, puis ça peut être complètement autre chose. Ouais. Alors, avec la musique, souvent, là, on parlait de film encore, on peut annoncer quelque chose qui s'en vient, par exemple. Il y a quelque chose qui va arriver, alors on met une certaine musique, une certaine... Tu as parlé de tension, c'est un très bon mot, une tension musicale avec les harmonies, pour que l'auditeur, il soit comme attentif, OK, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Quelque chose de bon, quelque chose de mauvais, de joyeux, de triste. On peut vraiment communiquer tout ça avec, avec des notes de musique.
En effet. Et si on parle un peu plus de ton parcours, on a parlé justement que tu étudies en musique, Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu penses faire un doctorat en musique? Où est-ce que tu en es avec tout ça dans tes études?
Bien, c'est sûr que je trouve ça super intéressant, tout ce que j'apprends puis que je continue d'apprendre. Puis oui, ça dépend. Là, je suis dans mon parcours en ce moment. Bon, moi, à la base, je suis autodidacte. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à apprendre à l'église. À commencer à jouer du piano, je chantais un peu de guitare. Mes parents faisaient la louange à l'église, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me rappelle, j'avais comme 8 ans, puis je chantais déjà à l'église. À 10 ans, j'ai commencé à jouer le piano, puis à l'église assez rapidement aussi. Même chose avec la guitare, la batterie. Mais éventuellement, le piano, c'est devenu mon instrument principal. Et puis, j'ai appris à lire la musique à peine au secondaire. Lorsque je suis arrivé au secondaire, j'ai fait partie de l'harmonie de l'école, un petit orchestre avant, dans le fond. Puis c'est là que j'ai appris tout ce qui est théorie musicale. Avant ça, j'avais aucune idée. Et puis après, la musique a vraiment pris beaucoup plus de place dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça puis que je ne pouvais pas m'en passer du tout. Et j'ai décidé quand même tardivement d'étudier en musique parce qu'il y a autre chose que j'aimais, c'était beaucoup les sciences, la physique, par exemple, où j'ai été intéressé aussi par l'aéronautique dans le temps. Alors, je me suis dit, je vais étudier là-dedans. Puis finalement, je me suis dit que ça ne servait à rien parce que je faisais tout le temps de la musique. Okay. Alors, j'étais en train plutôt de perdre mon temps à essayer de faire des sciences alors que ce que j'aimais vraiment puis que ce que je faisais tout le temps, c'était de la musique. Alors, c'est comme ça que mon parcours scolaire a débuté dans la musique sérieusement. Je suis allé au cégep en musique, au cégep Marie-Victorin, où j'ai eu des profs incroyables. C'était la première fois vraiment que je côtoyais des gens qui avait étudié à l'université en musique, qui enseignait la musique à part au secondaire, évidemment, mais tu sais, on s'entend que c'est pas la même chose, l'enseignement, non, c'est un autre ça. Niveau. Alors, c'était vraiment impressionnant de voir des gens de ce niveau-là, musical, dans leurs oreilles, ils entendaient tellement bien toutes les notes, le niveau de solfège, leur niveau à l'instrument. Alors, j'ai fait 2 ans au cégep, en pré-université, en musique, en piano classique. Et puis, je suis rentré à l'Université de Montréal en composition, écriture plutôt, dans le fond. Fait que là, je suis en train de finir mon bac en écriture. En fait, je l'ai pratiquement fini. J'ai fini tous les cours qui sont spécifiques à l'écriture. Puis j'ai comme joué un peu avec mon parcours. J'ai pris des cours qui n'ont pas rapport avec l'écriture. J'ai pris des cours de sonorisation, mixage, studio, tout ça. Cours d'acoustique pour bien comprendre le son, comment il fonctionne. Puis là, ça fait en sorte qu'en ce moment, je ne conseille pas vraiment aux gens, d'ailleurs, si vous allez à l'université, essayez de suivre votre parcours parce qu'après, vous vous retrouvez comme moi. J'ai quand même trop de crédits. Fait que là, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec les crédits que j'ai en trop. Puis il faut que je finisse mon vrai bac, qui est bac d'écriture. Puis les cours qui me restent, c'est genre des cours de chorale, okay. Tu sais, qui n'ont pas rapport avec mon cheminement, mais que j'aurais dû prendre avant. Fait que bref, en tout cas, là, je suis rendu à la fin de mon cheminement. Techniquement, j'ai fini mon bac en écriture parce que j'ai plus de cours d'écriture à faire. Je les ai tous faits. Puis là, c'est juste, comme on pourrait dire, de la paperasse. Dans le fond, m'arranger pour avoir mon diplôme avec les crédits qui me manquent. Ouais. Fait que c'est ça un peu mon parcours musical. Puis là, je suis rendu officiellement compositeur ou écrivain de la musique.
C'est génial. Et Marie-Victorin est un cégep ici à Montréal, n'est-ce pas?
Oui, c'est
puis
ça.
Puis à l'université, tu es allé à quel... pour ceux qui se demandent quel parcours après Marie-Victorin, quelles seraient les options, admettons, l'université que tu parles, ou là où tu es à quel... où tu parlais de encore Marie-Victorin?
Non, moi, je parlais de l'Université de Montréal, dans le fond. Après Marie-Victorin, c'est à l'Université de Montréal que je suis allé. Je sais qu'il y a aussi McGill en anglais. Il y a d'autres programmes aussi à l'UQAM. Je ne les connais pas trop, je ne les ai pas vraiment vus. Ça, c'est un autre risque que j'ai pris d'ailleurs. Je me suis juste inscrit au programme que je voulais et à l'université que je voulais aller. Ça veut dire que si je me faisais refuser, je n'avais pas de programme en musique. Mais c'est ça, fait que je me suis surtout informé pour l'Université de Montréal sur ce qui se passait. Je sais qu'à l'UQAM, ils font, je pense, de la musique pop aussi, puis des trucs en studio. À l'Université de Montréal, c'est beaucoup de musique classique, de jazz, de musique contemporaine, dans le fond, pour les compositeurs. Mais il y a aussi des programmes en musique numérique, qu'on appelle. Puis là, on voit aussi de la composition, mais assistée par ordinateur. Puis, pas nécessairement de la musique pop. Tu sais, il y en a qui en font aussi. Mais c'est les programmes qu'il y a à l'Université de Montréal.
Génial. Donc, super. Et tu dis aussi que je sais que tu es enseignant. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à jouer quoi que ce soit, un instrument ou de la musique, selon Eduardo González?
En fait, selon moi, peut-être que la réponse ne va pas se satisfaire, mais oui et non. Dans le fond, les deux réponses sont bonnes. Dans le sens, oui, ça dépend par contre. C'est quoi ton objectif? Si ton but, c'est d'être un grand concertiste de piano international, puis tu commences à 45 ans, c'est peut-être un petit peu trop tard. D'habitude, on commence jeune, on commence enfant. Il y en a qui commencent à 4, 5 ans. Carrément. Le violon aussi, c'est des instruments qu'on commence jeune. Personnellement, j'ai commencé le piano sérieusement à l'âge de 10 ans. Je pense que j'étais quand même limite en ce qui concerne l'âge pour les gens qui se disent si tu veux atteindre vraiment un haut niveau de piano, peut-être 10 ans, ça serait la limite. En tout cas, c'est ce que la plupart des profs que j'ai croisés m'ont dit. Quand je leur posais moi-même la question, parce que c'était vraiment une inquiétude, je me disais, j'ai commencé à 10 ans, est-ce que j'ai commencé trop tard? Est-ce que mes muscles se sont bien développés? Est-ce que c'était la bonne chose à faire d'étudier en piano classique si j'ai commencé aussi tard? Puis la plupart des profs, après m'avoir vu jouer, évidemment, ils m'ont dit que c'était correct, que ça semblait bien, que c'était peut-être la limite d'âge, que j'étais peut-être un petit peu tard par rapport à d'autres, mais que mes doigts bougeaient bien, puis que j'avais bien développé mes muscles, puis que je... Parce que je dois avouer que j'ai commencé à 10 ans, mais je faisais des fois du 5 heures par jour à 10-11 ans. Là. J'étais très jeune, mais j'aimais beaucoup ça, puis c'était vraiment une passion depuis que j'étais enfant. Alors, il y a pas d'âge, mais en même temps, ça dépend de tes objectifs. Alors, tu peux faire de la musique juste pour le fun, puis ça, tu peux le faire jusqu'à jusqu'à l'âge que tu veux commencer, quand tu as le temps de le commencer. Il y a des gens, d'ailleurs, ça me fait penser à l'université, là, qui étudient en musique maintenant, qui sont à la retraite de leur, leur travail, de leur premier choix, si on veut. Fait que non, je dirais qu'il n'y a pas de limite. C'est, comme je te disais, ça dépend de ce que tu veux faire avec.
Super. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent s'ils peuvent commencer, ben, Eduardo González dit « Allez-y, c'est pour le fun, à moins que vous vouliez être des grands concertistes. Votre bulle est brisée. Elle est pétée, comme on dit en bon québécois. »
C'est ça.
Donc, super, merci. Puis, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, justement, admettons, à quelqu'un qui commence maintenant? Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais dire à la personne, ou je ne sais pas, je sais que c'est peut-être... quelque chose que tu vas dire à tes élèves au premier cours, ou tu sais, que ça serait quoi le conseil numéro un pour quelqu'un qui commence à apprendre un instrument de musique?
Si c'est quelqu'un qui veut le faire sérieusement, ce que ça prend beaucoup, c'est de la discipline, plus que du talent. Le talent peut faire en sorte que tu le fais facilement, tu le fais plus vite, mais si tu n'as pas de discipline, ce talent, il ne sert à rien. Il y a des gens qui ont peut-être moins de talent, mais plus de discipline, qui vont se rendre plus loin que quelqu'un qui a un talent de fou, mais qui ne pratique jamais, ou qui pratique 7 heures, mais juste une fois ou deux semaines. C'est ça ne sert à rien. C'est comme aller au gym puis penser que tu vas être musclé tout après. C'est quelque chose de constant que tu dois construire tranquillement. Puis on parlait tantôt d'âge. Il y a des grands musiciens qui ont commencé très tard. Peut-être pas nécessairement des violonistes ou des pianistes, des flûtistes, par exemple. Ou d'autres instruments d'orchestre, trombonistes, trompettistes. J'en connais même qui auraient commencé proche de la trentaine, ce genre d'instrument-là.
J'ai de l'espoir.
T'as de l'espoir si tu veux être prochain flûtiste de l'OSM. Mais non, tu commences, t'es discipliné, tu travailles fort. Si ton but, c'est de gagner ta vie avec ça, surtout en tant qu'interprète, c'est vraiment être discipliné dans ton instrument. Là, je peux pas donner... par exemple, il y en a qui me demandent combien de temps par jour je dois pratiquer. Ça dépend de l'instrument, ça dépend, ça dépend de toi aussi. Mais c'est vraiment ça, c'est la discipline. Puis c'est juste pour le fun, mais... C'est juste pour le fun. Fait que t'en fais quand tu veux.
Puis si tu sonnes comme tu veux, c'est pour le fun.
Tu sonnes comme tu veux, c'est pour le fun. Juste c'est chez toi.
C'est ça, tout seul avec tes écouteurs.
Voilà.
Quand tu le peux. Super. Tu as dit aussi que tu as pris des cours de sonorisation et tout ça.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait plus pour l'enregistrement personnel ou tes projets personnels, ou tu trouvais que c'était quelque chose que tu avais besoin justement afin de faire ton talent sonner mieux, si on peut dire ça, ou si tu peux aider les gens qui t'invitent à jouer, parce que c'est le cas souvent, non, que tu es invité un petit peu partout à jouer ou à compléter un band ou un concert. On t'a vu à certains endroits, des grands concerts. Tu as joué au Saint-Denis aussi, avec La Chapelle, n'est-ce pas? Ouais. Au concert de Noël. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça ou des concerts que je te vois et je ne suis pas surpris que tu sois là parce que tu as le talent pour. Et donc, merci, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est vraiment pour aider les gens qui te reçoivent aussi? Est-ce que tu as eu à mettre un peu ton opinion dans ce qui est la sonorisation afin de l'améliorer pour ces types de concerts ou...
Alors, c'est un peu de tout ce que tu as dit. Dans le fond, oui, j'avais besoin pour moi-même, pour mes projets personnels, pour comprendre vraiment comment fonctionne l'acoustique, comment fonctionne le son, comment mixer, tout ça. Mais je suis vraiment un prof, dans le fond, dans le cœur. J'aime beaucoup enseigner. Je pense que je l'ai déjà mentionné. J'enseigne beaucoup. Sauf maintenant à cause de la COVID. Ouais. Mais avant la COVID, je remplissais mon horaire d'étudiant, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis je faisais plus d'enseignement presque que de jouer. Puis des fois, je refusais de jouer pour enseigner. Parce que j'aime beaucoup enseigner. Je sais qu'il y a quelques musiciens peut-être qui écoutent, qui enseignent parce qu'ils n'ont pas le choix d'enseigner. Moi, c'est le contraire. J'enseigne vraiment parce que j'aime enseigner. Alors, toutes les connaissances que j'essaie d'acquérir, d'avoir, que ce soit dans la musique ou dans la sonorisation, tout ce qui est lié à la musique, dans le fond, c'est vraiment pour être le plus efficace possible puis pouvoir aider le mieux possible. Parce que des fois, ça arrivait qu'on arrivait dans une église puis il n'y avait pas de technicien de son, ça sonnait mal, puis les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait. Et c'est arrivé dans le temps que moi non plus, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Puis je me suis dit, ben, je veux pas être juste musicien, dans le fond, je veux être capable de les aider dans ça aussi. Puis c'est vraiment le fun d'arriver quelque part puis pouvoir être utile vraiment, tu sais, de pouvoir te dire, OK, mais il y a des problèmes, il y a des lacunes dans telle chose. Peut-être qu'on peut un peu se diviser les tâches. Mm-hmm. Je sais qu'il y a déjà des musiciens ici qui peuvent s'occuper de la musique. Je vais m'occuper du son. Mm-hmm. Ou le contraire. Alors, c'est vraiment pour être capable de partager ces connaissances-là, puis de faire en sorte que les gens soient équipés après mon passage, si on veut. T'sais, c'est pas moi, là, c'est pas dans le but de me dire « Ah, Eduardo est là, t'sais, Eduardo va aider. » C'est pas du tout ça, mais je veux dire, si je peux aider, vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir aider. Puis entre autres, c'est pour ça que j'ai étudié toutes ces choses-là, puis que j'essaie toujours, je continue d'étudier, je continue de lire, je continue de voir des nouvelles techniques ou des nouvelles choses qu'on peut faire, puis quels sont les nouveaux équipements qui sont sortis pour que, admettons, je me fais inviter à un endroit, puis je vois qu'il manque telle chose, mais je sais peut-être comment l'arranger, puis faire en sorte qu'après, eux autres, ils n'auront plus ce problème-là. T'sais. Alors, c'est vraiment un peu ça le but. C'est très souvent dans l'optique de l'enseignement, c'est de pouvoir aider. Je donne aussi des fois des cours de sonorisation, des formations pour des futurs techs de son pour les églises. Mm-hmm. Alors, oui, c'est vraiment ça. Puis ça, ces formations-là, je les fais seulement depuis que je suis à l'aise de le faire avec une bonne base de théorie après avoir étudié à l'université, même si avant l'université, je savais déjà un peu comment ça fonctionnait. Ouais. Fait que je me sens pas à l'aise d'aller enseigner quelque chose que j'ai pas moi-même maîtrisé le plus possible.
Ouais. Puis ça arrive souvent dans les églises... On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Oui. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on apprend de quelqu'un d'autre qui l'a appris, puis c'est par essai et erreur, n'est-ce pas?
Oui, donc, c'est ça.
Si je parle de mon expérience, moi, comme technicien de son, ben, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai pas allé à l'université, mais c'était comme, oh, tu mets le volume de cette façon-là parce que c'est toujours comme ça qu'on l'a fait, puis c'est let's go. Puis après, tu commences à comprendre un petit peu plus la logique derrière le tout. Oui. Mais c'est avec essai et erreur, non? Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que après, tu as quelqu'un qui a réussi à acquérir cette expérience-là et finalement, elle s'en va. Puis là, il n'y a plus de technicien de son, comme tu dis, où la connaissance n'a pas été transmise. Uh-huh. Et là, Eduardo arrive et on va essayer de... on va essayer d'arranger un petit peu pour que ça sonne mieux. Donc, je te posais la question parce que justement, je sais un peu que c'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Puis voici la question qui tue.
Oh, vas-y.
Est-ce que t'es déjà arrivé à un endroit, sans nommer l'endroit ou les personnes, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu es arrivé à un endroit que vraiment ça ne sonnait pas du tout comme ça devrait sonner, puis tu t'es dit « ouch » à tes oreilles, admettons, ou je sais pas, puis tu t'as dit « ok », puis t'as dû prendre une phrase politiquement correct ou dire oui, c'est correct, ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ou est-ce que c'est arrivé dans une occasion que tu t'es senti mal à l'aise de pouvoir ou devoir leur dire il faut qu'on arrange telle chose? Qu'est-ce qui est arrivé? Si tu es à l'aise d'en parler, ben...
Écoute, j'en ai vu beaucoup d'églises dans le fond, puis oui, c'est déjà arrivé que des endroits qui sonnaient mal. C'est rarement arrivé un endroit où les gens ne voulaient pas s'améliorer, par contre. Mm-hmm. Donc, ça a souvent été facile de venir leur dire quoi faire pour s'améliorer, parce que souvent, ces endroits-là, quand ça sonne pas bien, ils savent. Mm-hmm. Puis ils savent qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Puis ça, je respecte ça beaucoup. D'ailleurs, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, « Toi, t'es musicien, t'as étudié en musique. Est-ce que ça te dérange d'écouter des équipes de louanges qui sonnent vraiment mal? Puis toi, tu dois entendre plus que nous, là. » Puis c'est pas complètement faux parce que... En fait, c'est pas faux du tout. Parce que j'ai étudié le solfège à l'université. Puis ça, ça développe l'oreille. Ça fait en sorte que tu peux écouter et entendre de plus en plus tout ce qui se passe dans la musique. Évidemment, quand on fait le solfège, on n'essaie pas d'écouter des erreurs, mais on essaie de vraiment déchiffrer tout ce qui se passe dans une pièce musicale. Les harmonies, les mélodies, tout ça. Alors, ou veux pas, quand j'entends quelque chose, je l'entends vraiment clairement. Puis quand il y a des fausses notes, je sais qu'est-ce qu'elle a fait. Je sais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, la personne. Je sais pourquoi ça sonne bien, pourquoi ça sonne mal. Je sais c'est quoi les lacunes. Mais je ne dis jamais, ni à une équipe de louanges, ni à une personne, qu'elle est mauvaise. S'il faut que je dise quelque chose pour faire comprendre à quelqu'un qu'il faut travailler, ben, je dis justement ça. T'es pas encore peut-être rendu là ou t'es pas encore prête. Il faut travailler tel aspect, il faut travailler telle chose. Puis souvent, j'arrive avec des choses spécifiques.
Victor, ça... t'as déjà entendu ça?
Tu as dit sa phrase, je suis comme, j'ai déjà entendu cette phrase.
Parce que pour moi, les gens ne sont pas mauvais, ils sont débutants. Où ils sont encore... là, je sais que pour certains, ça sonne mal, mais ils sont encore ignorants de certains sujets. Mm-hmm. Tout simplement parce qu'ils ne le savent pas encore. Ils ne l'ont pas étudié, personne ne leur a dit. Avant que tu saches que tu bois un café, tu savais pas que c'était un café. Quand tu étais petit et tu voyais les gens boire quelque chose, tu as appris que c'était un café parce que quelqu'un te l'a dit.
On te l'a nommé, on t'a dit.
On te l'a nommé, tu l'as goûté, etc. Il y a des choses que tu peux pas deviner. Il faut que tu les expérimentes quand on les enseigne. Puis dans la musique, si on ne dit pas « c'est comme ça qu'il faut jouer, c'est comme ça qu'il faut faire ci », si on est sur un sol, tu ne peux pas faire un fa dièse parce que ça sonne mal. Sauf si c'est un majeur 7. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails.
Tu as vu que je me suis perdu puis tu avais OK, on va arrêter ça. Quand mes yeux se sont croisés.
Oui, ouais, c'est ça. Non, mais alors, je ne vais jamais dire à une équipe ou à qui que ce soit qu'ils sont mauvais. Au pire, je leur dirais « guys, il faut travailler telle chose, guys, ceci ne va pas bien. Il faut travailler, je ne sais pas, les voix, il faut travailler les harmonies, il faut travailler le piano. » Puis j'essaie le mieux possible de leur expliquer. Puis des fois, ça tombe que finalement, ils me demandent de leur faire des formations pour s'améliorer, justement. La plupart du temps, c'est ça qui arrive. Mm-hmm. Parce que les gens veulent s'améliorer. Il n'y a personne qui veut sonner mal puis rester comme ça.
Ouais.
Mais moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que lorsque tu es dans une équipe de louanges, lorsque tu exerces le ministère, c'est un devoir que tu as de faire de ton mieux.
Mm-hmm.
OK? Alors, si tu n'as personne pour t'enseigner et que ton mieux, ton 100% sonne mal, si on veut, pour un musicien professionnel, je veux dire, si c'est vraiment ton 100%, je veux dire, tu donnes la meilleure offrande que tu es capable de donner à Dieu. Mais lorsque quelqu'un arrive puis est capable de t'enseigner, malheureusement pour toi, ben, c'est ton devoir aussi d'apprendre.
Exact.
Puis c'est ton devoir d'avancer. Si je vois une équipe de louanges qui sonne d'une certaine façon puis que 6 mois plus tard, je les revois puis ils sonnent pareil ou pire, ça peut arriver aussi. Mais là, je me dis que ça, c'est un problème.
Mm-hmm.
Que ça ne devrait pas arriver. Et c'est ça. Le but, c'est toujours avancer, s'améliorer puis jusqu'à ce que tu te rendes à ton niveau personnel maximum.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça mes phrases. Dans le fond, ça que je dis.
Super. Puis, est-ce que tu as déjà eu un élève, à part moi ou Victor,
à part moi, spécialement moi,
un élève que tu t'es dit, OK, non, c'est pas pour toi, c'est peut-être pas pour toi, pour X raisons, peut-être, pas, comme on dit, peut-être pas l'âge, mais peut-être il y a quelque chose que, par exemple, ça peut être quelqu'un qui dit, moi, je vais apprendre la batterie, mais il y a des problèmes de coordination, et tu te dis, tu serais peut-être mieux à jouer à la basse ou jouer à un autre instrument. Est-ce que c'est déjà arrivé? Quelles sont, mettons, tes recommandations? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui dit, ben c'est peut-être pas cet instrument-là, finalement?
Écoute, oui, j'ai déjà croisé des gens qui avaient beaucoup de misère à jouer l'instrument qu'ils avaient choisi ou qu'ils voulaient faire. Il y a des gens... D'ailleurs, c'est pas beaucoup de personnes, mais il y a des gens, d'ailleurs, qui ne sont même pas capables d'entendre les notes, qui n'entendent pas si le chanteur a fait une fausse note ou il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé dans le band. Fait que les gens qui n'entendent pas, c'est vraiment très difficile de leur enseigner. Parce qu'il faut d'abord qu'on essaye de voir, OK, il n'entend pas, mais il faut qu'il entende. C'est la première chose. Je veux dire, il y a des gens, la plupart des gens ont un minimum d'instinct musical. Tu peux jouer, c'est drôle, parce que sans connaissance de théorie musicale, tu es capable d'entendre immédiatement lorsqu'il y a une fausse note dans une pièce musicale. Alors, tu t'écoutes une chanson, puis si je te jouerais, là, si on a un petit clavier, je te jouerais des accords, puis je ferais exprès de faire une fausse note, tu l'entendrais tout de suite, probablement. Puis la plupart des gens qui écoutent entendraient aussi. Mais il y a un petit pourcentage de gens, j'ai plus les chiffres malheureusement, là, mais il y a un petit pourcentage de gens qui n'entendent rien. Donc, je pense que j'en ai déjà croisé peut-être 2 ou 3.
Moi aussi, je crois.
Tu crois aussi? Mais ces gens-là, s'ils veulent apprendre, c'est difficile. C'est très difficile. Ou il y a aussi ceux qui n'ont aucun sens de rythme. Puis des fois, ces gens-là, ils ont les deux problèmes. Ils n'ont ni le sens du rythme, ni l'oreille pour entendre des fausses notes. Ça, c'est très difficile. Puis ça m'est arrivé peut-être une fois, mais la personne s'améliorait un peu. Parce qu'elle m'a dit, non, je veux vraiment, comme je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de chanter, je vais essayer de faire ça. Alors, je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Moi, ça ne me dérange pas, je peux essayer de t'aider le plus que je peux. Alors, on faisait des tests, je faisais écouter des choses, puis on essayait de faire en sorte, OK, des fois, des trucs très de base. Je jouais deux notes, puis je disais laquelle des deux sonne plus aiguë, laquelle des deux est plus grave. D'ailleurs, j'ai eu une fois quelqu'un qui n'était pas capable de Okay. De rien. Il n'entendait pas. Il n'entendait pas du tout. Fait que finalement, cette personne-là a abandonné. Puis c'est souvent ça qui va arriver avec ces gens-là parce que c'est comme trop d'efforts pour eux, le travail qu'ils doivent mettre. Puis je n'ai pas nécessairement cherché plus loin à comprendre pourquoi ça leur arrive. Juste quand ils étaient devant moi, puis quand je les avais comme élèves, je faisais des recherches, voir qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider. Mais comme ça n'arrive pas souvent, je ne saurais pas te dire pourquoi ça arrive, mais c'est très rare. Je ne dis jamais à quelqu'un que tu n'es pas capable de le faire, surtout si je vois que c'est juste des lacunes.
Comment? Tu le penses?
L'as-tu déjà pensé?
Est-ce que je l'ai déjà pensé? Oui. Oh mon Dieu!
La musique, ce n'est pas pour toi. Pas de nom.
Pas de nom, non, je dirais aucun nom. Seulement les gens qui étaient extrêmes.
Okay.
Parce que je me dis, tu sais, j'essaie de me rappeler quand moi je commençais.
Ouais.
J'essaie de me rappeler quand moi, je n'étais pas capable de compter encore. Mm-hmm. Puis quand moi, je n'étais pas capable de faire les rythmes que j'étais censé faire pour faire une chanson. Mm-hmm. Et je me dis, si moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas capable, même si maintenant, je suis capable de faire à peu près n'importe quoi, à peu près. Hein. Je ne suis pas un grand interprète non plus, mais j'ai plus de lacunes de rythme, on s'entend, surtout pour les chansons qu'on fait à l'église. Mais je me dis, si moi, au début, je n'étais pas capable, je veux dire, je vais pas exiger... On commence tous à
quelque part.
Ouais, on commence quelque part. Et je vais pas exiger à quelqu'un qui vient de commencer avec moi d'être bon tout de suite. Il y en a qui sont surprenants, qui sont super bons, puis qui avancent super vite, qui ont un grand talent. D'autres, qui ont de la misère. Puis tout ce que je fais, c'est que je leur enseigne, puis je décortique les rythmes le plus possible. Puis s'il faut que je décortique encore plus, puis simplifie encore plus, je simplifie les rythmes au maximum, jusqu'à ce que je me rende au niveau de la personne. Puis quand je me rends au niveau où la personne comprend, je pars de là, puis on avance. C'est ce que je fais tout le temps. Mais je ne dis jamais à quelqu'un qui n'est pas capable, sauf quand c'est extrême, vraiment.
Sauf quand c'est Victor.
Ah, non, moi, je rappelle les mots exactement. Tu sais, toi, t'es un génie. Je suis comme, oh my God, je suis un génie. Non, moi, j'ai jamais dit ça. Non,
j'aimerais c'est bien. Ça, j'étais surpris. J'ai dit, vraiment?
Non, j'aimerais bien. Là.
Puis t'as arrêté après ça?
Ouais. Non, je continue un peu. Je continue. C'est juste que moi, mon comme toi, c'est jouer et tout ça. En plus, maintenant, je sais que c'est aussi beaucoup plus dans l'audio et tout ça. Moi, ça a vraiment changé à... on a beaucoup d'instruments, beaucoup de gens qui peuvent jouer, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire l'audio. Donc, moi, ça a parti par nécessité, mais après, ça a devenu vraiment un amour pour apprendre plus qu'il y a dans le sens audio, recording, mixage, tout ça. J'aime apprendre tout ça. Et j'ai vu que moi, jouant, être live on stage, c'est quelque chose qui est comme secondaire. Quelque chose que je peux faire, mais quelque chose que je peux faire si je suis la personne qui est en train de faire l'artiste, sonner mieux.
Okay.
Ça, c'est pour moi quelque chose qui me donne plus de... je sais pas, ça me donne plus de
c'est gratifiant.
Goût. Ouais,
quoi, pour moi. Ça te motive aussi plus à... OK, cool.
Ouais, ça, c'est très bien. Moi,
Non, c'est cool, ça.
Ouais. Super. Puis, est-ce que bon, on parlait des élèves, on parlait, n'est-ce pas? Mais dans ce qui est plus la vie d'Eduardo González, parce que là, tu me parlais que tu avais des études, n'est-ce pas? Tu es un homme marié.
Oui. Vrai, ouais.
T'as ta famille, t'as tes études, tes élèves. Donc, comment tu réussis à gérer tout ça? Parce que quand on parle justement à te connaître aussi, je sais que tu as un horaire surchargé, n'est-ce pas? comment tu réussis à survivre à tout ça? Comment tu gères tout ton temps pour, en plus de ça, j'imagine, produire, jouer dans tes temps libres? c'est quoi que ça a l'air, la vie d'Eduardo González?
Ben, c'est ça, ouais, je fais beaucoup, beaucoup de musique. Puis je dis en blague, pour me détendre, après, je fais un peu plus de musique. c'est vraiment un équilibre. Vraiment gérer ton horaire correctement, quitte à devoir donner juste des petits moments, des fois, à chaque projet. C'est quelque chose qui est important, c'est que tu ne peux pas négliger non plus ton temps personnel où tu as besoin de te détendre, où tu as besoin de... dans mon cas, moi, je travaille à la maison. Puis quand ma femme arrive, après sa journée de travail, je sais à peu près quand est-ce qu'elle va arriver, fait que je m'arrange pour arrêter de travailler à cette heure-là. Puis à cette heure-là, sauf quand je suis vraiment débordé, j'arrête juste un peu plus tard, tu sais, je continue un peu après. Mais on mange ensemble. Tu sais, on va manger ensemble. On va avoir un petit moment de détente ensemble, écouter quelque chose tu sais, après avoir mangé. Puis si j'ai beaucoup de travail, je retourne travailler après. Mais vraiment après avoir eu
Un temps de qualité.
Un temps de qualité. Il n'y a pas juste j'arrive, je mange 15 minutes, puis je m'en vais. Ouais, même pas. 5 minutes, puis je m'en vais parce que je mange vite. Non, non, tu sais, au moins, tu sais, une heure, je dirais, ensemble. Tu sais, on mange, puis on reste là, on parle, ou des fois, on fait juste rien. Mais tu sais, c'est quand même notre temps, c'est important, tu sais, être ensemble. Puis des fois, je fais juste plus rien. J'ai l'air de travailler en même temps qu'elle, quand je suis capable. Des fois, quand j'ai trop de travail, ma journée vire carrément à l'envers parce que j'essaye de... Tu sais, j'essaye d'avoir quand même un moment où je vais être libre. Donc, des fois, par exemple, je vais continuer à travailler après. Puis des fois, je vais finir super tard ou super tôt. Si tu... je dépasse le tard, dans le fond. Puis,
super tôt le lendemain.
Super tôt le lendemain, c'est ça. Puis des fois, ça va carrément arriver qu'elle est en train de partir travailler, puis moi, je suis en train d'aller me coucher.
OK, ouais.
Mais ça fait en sorte que le lendemain, ouais, je suis tout déboussolé à cause de l'horaire. Mais le lendemain, j'ai plus de travail parce que j'ai fini. J'ai pris genre une bouchée double la veille, puis je m'assure d'avoir, tu sais, un petit moment après... au moins une journée, tu sais, on s'arrange aussi pour avoir des vacances. On revient en ce moment de vacances. On a fait un road trip. Puis pour le faire, ben, j'ai sacrifié ma fin de semaine, la fin de semaine passée. J'ai travaillé vraiment beaucoup. J'ai avancé tout ce que j'étais censé faire cette semaine. Puis on est parti. On a pris des vacances.
Donc, c'est flexible jusqu'à un certain point.
Exact, exact. C'est flexible jusqu'à un certain point. Puis quand j'ai besoin vraiment juste d'accélérer, d'aller vite pour prendre plus de temps pour nos vacances ou juste pour être ensemble la fin de semaine, je le fais. T'sais, j'essaie de faire en sorte que, OK, telle journée, j'essaie de rien placer dans l'horaire. Puis autre chose aussi importante qu'on fait, ben là, on parle quasiment de couple. On y reviendra une autre fois avec elle aussi. On
pourrait élaborer là-dessus avec elle.
Ouais, c'est ça. Mais on a des réunions. On fait des réunions officielles, si on veut. C'est vraiment officiel, dans le fond. On se donne un horaire, souvent le lundi matin. Quand elle part travailler, donc elle est dans l'auto, moi je suis en train de préparer mes choses pour commencer la journée, puis on se parle en même temps, puis on ouvre nos agendas, on regarde qu'est-ce qu'on a durant la semaine, quand est-ce qu'elle est le travail, parce qu'elle aussi son horaire change un peu, c'est quoi les projets que moi je dois faire cette semaine, quand est-ce qu'on peut prendre un temps pour nous, plus que juste quand elle arrive là, quand est-ce qu'on peut prendre une soirée, fait qu'on organise nos semaines comme ça, semaine après semaine. Alors c'est comme ça qu'on fait un peu l'équilibre aussi entre le travail puis notre vie personnelle, dans le fond. Mais oui, il y a beaucoup de travail. Puis c'est bien, c'est une bénédiction. Merci Jésus pour le travail. Ouais. Merci pour le stress aussi, comme dirait...
Ouais, qui vient avec. Hein?
Ouais, pasteur Marc à l'Église Nouvelle Vie dit ça. Merci pour le stress, Seigneur. Ouais. Merci pour le travail, pour tout ça. Puis c'est vrai, il a raison. Parce que oui, c'est peut-être stressant lorsque tu en as beaucoup, puis il faut que tu essaies de tout gérer puis tout faire. Mais je veux dire, c'est une bénédiction.
Ouais. J'ai entendu justement, en parlant de stress, un conférencier qui disait il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les gens stressés, puis il y a les gens qui sont morts. Donc, ça veut dire que toutes les personnes dans la vie ont un stress, que ce soit minimal, ou c'est ce qui nous permet d'être aussi en vie et être actifs pour tous les projets, toutes les choses qu'on a à faire. Ça nous maintient. Mais j'ai trouvé ça très drôle de comment ça a été présenté, puis honnêtement, c'est très vrai. Autre petite question concernant tout ce qui est l'aspect musical. J'ai deux petites questions. Premièrement, quel est ton type de musique préférée que tu aimes jouer, par exemple? Et quel type de musique écouterais-tu pour te détendre, admettons?
Ce que j'aime jouer, je suis tellement quelqu'un qui fait un peu de tout que j'ai de la misère à répondre à ça. Mettons que je suis tout seul devant mon piano. J'aime... jouer des pièces classiques romantiques, dans le fond. La période classique, la période romantique. J'aime aussi un peu la période baroque. C'est le fun à jouer, c'est le fun à faire. Mais on dirait que j'ai plus un penchant pour les styles Chopin, Mendelssohn, Beethoven, Mozart aussi. J'aime bien. Je veux dire, tout ce qui est piano, classique, si on veut. Là, je parle pas de la période classique, mais le grand mot classique là, que les gens utilisent d'habitude. J'aime ça. J'aime la musique pour jouer. Le piano. Sinon, bon, évidemment, dans mes temps personnels, la musique de l'église, je joue juste au piano, je chante, c'est mes temps de louange personnels, dans le fond. Un peu de tout, vraiment, mais je transforme tout en piano-voix, de toute façon, alors ça devient une genre de petite genre balade.
Cover classique balade.
c'est ça, exactement. Puis écouter pour me détendre, j'en écoute tellement tout le temps que je ne sais même pas si... Des fois, je mets du piano, juste de la musique au piano, ça, ça me détend quand même.
Tu restes dans la même dans le même type de musique, dans le même vibe.
Ouais, okay, c'est ça. Super, c'est mais là, pas nécessairement classique. Okay. Plus dans la période romantique, où des fois, j'ai des pièces aussi que j'ai composées que je trouve qu'elles détendent vraiment beaucoup. Puis ça marche, même si je les ai écrites, ça marche même avec moi.
Mais c'est génial.
Fait que des fois, je réécoute ce que j'ai écrit. Ça a l'air... Ah, le gars, il écoute juste sa musique.
Non, mais tant qu'à pouvoir la produire et que ça te fait du bien, il n'y a rien de mal à l'écouter, selon moi.
Oui, bien, merci. Voilà.
Super. Puis, est-ce qu'il y a un projet duquel tu es peut-être le plus fier, mettons, production ou même un concert, il y a quelque chose que tu as fait, que tu dis ça, jusqu'à date, c'est mon numéro un dans ce qui est production ou... production que ça peut être enregistré ou même, comme je te dis, dans un concert... live.
OK. Bon, premièrement, par rapport à ça, j'essaie à chaque fois de faire en sorte que ça soit celui que je suis en train de travailler dessus. Mon numéro un. Fait que dès que je suis sur un projet, par exemple, là, je suis sur une chanson de Noël, je ne peux pas trop en parler parce qu'elle va sortir éventuellement. Fait qu'en ce moment...
Exclusive.
C'est exclusif. Mais en ce moment, c'est ça mon projet numéro un parce que vraiment, je suis dessus complètement puis je suis en train d'écrire dessus. Mais si on parle de choses qui ont déjà été faites, mettons, par le passé, puis je les compare, mettons, entre elles, celui que j'ai vraiment eu le plus de plaisir à écrire parce que j'ai eu une très grande liberté pour l'écrire. Puis j'avais une équipe incroyable qui l'a ensuite interprété. C'est Minuit chrétien que j'ai écrit pour le concert de Noël de l'Église Nouvelle Vie l'année passée. Alors, on m'a dit, on a besoin d'une nouvelle version pour le menu chrétien. Puis ils m'ont dit ça, là, presque mot pour mot. Tu as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. On veut juste que l'intro soit quand même courte, que ça commence vite, qu'on sache déjà que c'est le menu chrétien, puis que ça finisse épique.
OK. C'est pas rien. Hein?
C'est pas rien. Puis ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, okay, c'est même pas des contraintes. C'est juste, c'est vraiment génial. C'est ça que je vais faire en plus. C'est ça que je voulais faire. Alors, ça, c'est vraiment génial parce que j'ai eu à écrire pour la chorale de l'Église Nouvelle-Ville. Celui qui l'a interprété, c'était un chanteur lyrique, classique. Et puis, il y avait une section de cordes. Il y avait le band de Nouvelle-Ville qui a joué. Avec Alexandre Paquette, qui est le directeur musical, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. On va le taguer, c'est ça. Alors, alors j'ai écrit ça. C'était vraiment cool à écrire. Parce que je m'occupais seulement de l'écriture en plus. Puis après, ils m'ont invité à le jouer. Ils m'ont dit, si tu veux le jouer au piano, ça serait le fun, tu joues. C'est toi qui l'as écrit, tu le présentes un peu en même temps. Puis j'ai accepté. C'était vraiment le fun de jouer ce que j'ai écrit, puis l'entendre par... live par la chorale, puis les violons, puis tout ça qui était joué là. Alors, c'était vraiment génial comme projet. C'est vraiment cool de la façon dont il a été interprété et de la façon dont j'ai pu l'écrire avec cette liberté que j'ai eue, justement.
C'est super. Est-ce qu'il y a moyen de l'écouter à quelque part? Est-ce que ça a été enregistré? Est-ce que ça a été simplement juste pour le live?
Je pourrais dire pas officiellement.
Pas officiellement, c'est correct.
Oui, ça existe, mais pas officiellement. Pas, c'est pas
pour le grand public.
Si on veut c'est ça, si on veut. Moi, je le lis.
Ouais, OK, c'est super. Super. Tu me le feras écouter.
Je te le ferai écouter en privé.
En privé, c'est ça. Bon, ben, super.
Alors, guys, si vous voulez l'écouter ou écouter quelque chose comme ça, il faut aller au prochain concert de Noël de l'Église Nouvelle Vie.
Ouais, c'est ça.
Petite publicité.
C'est bien correct, vas-y. Libre à toi, c'est bien correct. C'est génial, oui, pour t'avoir côtoyé, te connaître, comme je te dis, c'est vraiment un privilège de pouvoir te connaître, voir ton talent et tout ce que tu fais, comme personne, personnellement, si on peut dire ça comme ça, et aussi avec le ministère, avec tout ce que tu fais dans les églises, avec les jeunes, ton implication, c'est vraiment génial. Je te motive à continuer parce que vraiment, tu bénis beaucoup de vies.
C'est gentil.
Et c'est vraiment agréable de pouvoir partager avec toi dans ce podcast aussi pour que les gens puissent te connaître un peu plus à travers tout ça. Petite question encore. Je sais que tu as mentionné... Que tes parents étaient dans la louange quand tu as commencé à apprendre le piano. Mais je voudrais te poser cette question quand même. J'imagine que ça va peut-être avoir rapport avec ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment marqué musicalement, si on peut dire ça comme ça, ou dans ta carrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment poussé à apprendre ou à pousser tes limites? Quelqu'un qui a pu avoir un impact dans ta vie? tant ministériel ou musical, ou ça peut être deux personnes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a eu un grand impact dans ta vie?
Oui, ben, c'est sûr que mes parents, parce que comme ils étaient impliqués dans la louange, puis dès qu'ils ont vu que ça m'intéressait aussi, ils m'ont encouragé, puis jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de m'encourager. Ouais. Ils continuent de me dire, puis ça va bien les études, puis comment ça va à l'université, ils continuent, là, il faut que ça soit... puis leur façon de penser, c'est vraiment, si tu fais quelque chose, tu dois faire vraiment ton 100%, ton maximum, tu dois faire de ton mieux. Mm-hmm. Alors, mes parents n'avaient aucun problème avec le fait que j'étudie en musique. Ils n'avaient pas de problème lorsque je leur ai dit, ben, je ne veux plus étudier en sciences, je veux étudier en musique. Parce que ça, c'était mes choix, la science, c'était mes choix. Et c'est sûr que, tu sais, ils n'étaient pas fâchés que j'étudie en sciences. Ouais.
Ni déçus,
j'imagine. Ni déçus. Mais ils ne l'étaient pas non plus lorsque je leur ai dit que j'allais étudier en musique. Mm-hmm. Alors, mais tout ce qu'ils me disaient, ben, peu importe ce que tu décides de faire, mais il faut que tu le fasses bien, il faut que tu le fasses à 100%, il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses ça, parce que aussi, tu sais, en plus la musique c'est ton ministère, tu le fais à l'église, c'est pour le Seigneur, fait qu'il faut vraiment que tu le fais à 100% si tu le fais. Alors eux autres ils m'ont vraiment beaucoup encouragé, les deux, puis évidemment le fait de grandir à l'église, puis de voir, tu sais, j'ai depuis mon grand-père, tout le monde est pasteur du côté de ma mère, mon grand-père est pasteur, son frère, sa sœur a épousé un pasteur, puis après leurs enfants tous pasteurs, fait que mes oncles, les cousins à ma mère, tout le monde est pasteur, fait que dans toutes les églises qu'on allait, même à Montréal, il y en a qui sont ici à Montréal, mais tu sais, ils sont pasteurs, fait que puis souvent aussi impliqués dans la louange, pas tous, mais quand ils m'invitent, ils m'invitent pour les aider dans la louange aussi. Puis quand j'étais jeune, ils m'encourageaient à aller dans le ministère, puis à faire la louange à l'église. Puis alors, c'est sûr que c'est difficile, à part mes parents, dire une personne, mettons, parce que c'est vraiment tout mon entourage qui a toujours été là pour m'encourager, dans le fond, à faire ça à 100%. Alors, je dirais que c'est ça, en ce qui concerne mon entourage.
Super.
Juste à côté.
Est-ce que la musique, c'était pour toi toujours en vision d'aider l'Église, ou à un moment donné, c'était vraiment la musique est pour moi, je veux quelque chose pour que, tu sais, je vais devenir le next quelque chose, le prochain, blablabla, ou est-ce que c'était vraiment juste, j'apprends la musique parce que, un, j'aime la musique, et deux, c'est pour faire, like, bénir l'Église en général?
Ben, en fait, quand tu es jeune, surtout quand, mettons, au secondaire, puis que tu fais de la musique, moi, ce que j'ai fait au secondaire, c'est que j'ai formé un band, dans le fond, avec des amis. Puis il y en a, je pense qu'il y en a parmi eux qui ne jouaient pas trop ou ne jouaient pas de la musique. Puis je pense que c'est à cause de moi.
C'est à cause de moi qu'on veut des noms, n'est-ce pas?
Non, on veut des noms, c'est ça. Mais je veux dire, de ce que je me souviens, j'ai toujours, au moins depuis l'âge de 10 ans, aimé vraiment beaucoup la musique. Puis au secondaire, vers 15-16 ans, c'est vraiment devenu une passion. Puis on composait ensemble et tout. Alors, à ce moment-là, je dirais, parce que je le faisais à l'église quand même, mais elle était quand même un peu pour moi et mes amis, si on veut, dans le sens où ce qu'on faisait à l'école, c'était pas nécessairement pour l'église, c'était juste pour le fun. C'était pour nous. C'était pour le pur plaisir de faire de la musique. Mais plus le temps avançait, à 18 ans, je pense que j'ai commencé à enseigner, plus ça, c'est devenu pour aider les gens. Puis je me rappelle, tu sais, j'ai juste des flashbacks comme ça quand j'étais petit, là, quand j'avais comme 10-11 ans. Des fois, j'enseignais les trucs que je savais, tu sais, les accords, la guitare. Des fois, des adultes, là, ils me disaient, ah, comment tu fais cet accord-là? Puis là, je leur montrais, j'avais comme 10 ans, mais pareil, d'occupé. Fait que c'est moi qui leur montrais des trucs, les gens, ah, tu mets ton doigt là, puis là, je passais leur doigt. Ouais. Avant la COVID, on avait le droit de toucher aux gens, là. Ouais. Puis là, je mettais leurs doigts aux bons endroits, puis je me rappelle beaucoup de gens me dire des trucs, ah, t'es jeune, mais t'es vraiment patient. Tu sais, j'étais un enfant, là. Ouais, tu vas être prof plus tard, t'es vraiment patient. Puis, je suis encore patient, je pense, parce que je suis encore prof.
T'es encore là, t'es encore prof.
Oui, c'est ça. Alors, mais c'est vite devenu quelque chose que, waouh, je veux le partager avec les gens. Je veux aider les gens à développer leur potentiel au maximum de ce que les autres sont capables. C'est un peu ça mon but. Puis c'est pour ça aussi que j'étudie des choses qui ne sont pas juste liées à la musique. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des lacunes aussi ailleurs que dans la musique à l'église.
Comme ce podcast.
comme le son.
Comme le son du podcast. On va améliorer tout ça.
Ben non, c'est super bon.
Super, ben merci. Voici une autre question qui va peut-être te mettre on the spot.
Vas-y.
Tu viens de mentionner quelque chose que tu viens d'une lignée de pasteurs. Tu vois où je m'en vais avec cette question. Donc, je pense que oui. Des oncles, des grands-parents, pasteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà venu à cœur de dire peut-être un jour on va assister à. Où on va assister à une prêche, ou peut-être pas juste une prêche, parce que je sais que tu l'as déjà fait, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te sens appelé à devenir éventuellement pasteur Eduardo González, que ce soit pasteur musical, c'est parce qu'on en a de différents types de pasteurs. Ça peut être des pasteurs de louange, ça peut être des pasteurs comme on les connaît, généralistes.
Mm-hmm.
Est-ce que ça l'a déjà effleuré ton esprit, si on peut dire ça comme ça?
Oui, en fait, oui, c'est sûr que oui. Parce que, oui, comme tu l'as dit, tout le monde est pasteur autour de toi.
Oui.
Puis en plus, les gens disent « Ah, je suis sûr que tu peux prêcher. Mm-hmm. » Puis quand finalement tu prêches, ils disent « Hey, tu prêches bien. »
Oui.
Puis c'est pas pour dire que je sais pas si je prêche. J'espère, en tout cas, que c'est
moi, j'ai aimé les prêches que j'ai écoutées jusqu'à date.
Mais merci,
je peux témoigner du fait que, oui, c'était des bonnes prêches.
Merci. Alors, ce que je sais certainement, c'est que enseigner, j'aime ça. Ben, on le voit déjà par le fait que j'enseigne tout le temps la musique, puis je remplis mon horaire d'élèves. Mais enseigner la parole, c'est aussi quelque chose que j'aime prêcher. Puis on dirait que c'est encore plus profond, si on veut. Au moment où je suis en train de prêcher, on dirait que je suis encore plus passionné par l'enseignement de la parole que par l'enseignement de la musique, même si la musique... Tu sais, quand je suis tout seul, c'est quelque chose qui me passionne vraiment puis que je peux en faire pendant des heures. Puis je dis pas que j'aime pas la parole, c'est juste que, tu sais, la musique, c'est une passion qui est là depuis vraiment, vraiment longtemps, avant même que je lise la Bible comme je la lis aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Alors, mais quand je suis en train de prêcher, on dirait que je suis comme, je sais pas, je suis dans un autre monde, dans un autre univers. Oui. C'est comme un feu qui brûle en moi, puis que je veux vraiment partager ce que j'ai préparé, puis ce que j'ai sur le cœur. Alors, oui, c'est certainement pour l'enseignement. Pasteur, je sais, ouais, peut-être, je sais pas.
La porte n'est pas fermée.
On dirait pas que je pourrais le dire de façon aussi sûre que pour l'enseignement. Pour le fait d'enseigner la parole, que j'adore ça. Puis j'ai soif aussi d'apprendre plus, de connaître plus, de lire plus. Pasteur, c'est ça. C'est pas aussi peut-être clair, même s'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, qui me l'ont suggéré. Des gens qui me connaissaient même pas, d'ailleurs. une fois, je me rappelle, j'étais en train de traduire dans un mariage, je ne nommerai pas qui. La personne, si elle écoute ton podcast, va se reconnaître, c'est un pasteur.
Ouais.
Puis j'étais juste en train de traduire, je n'étais même pas en train de faire le mariage. Alors, je traduisais vers le français. Puis ce pasteur-là est venu me voir après. Puis je me rappelle que dans l'une des questions, il m'a carrément demandé, tu veux-tu être pasteur? Super direct, comme super précis. Ouais. J'étais comme, ouais, pourquoi pas?
Non, tu sais, j'avais pas la porte ouverte.
Il m'a pris vraiment par surprise, je savais pas quoi répondre.
Ouais.
Mais on dirait que c'est pas le seul. On dirait que les gens. Comment je pourrais dire ça?
Ils peuvent voir quelque chose en toi, peut-être?
Peut-être quelque chose comme ça. Je suis pas très. Tu sais, il y a même des gens qui sont plus. Est-ce qu'on t'a déjà prophétisé que tu vas être pasteur? Des choses de même. Bon, je suis pas très, très ça, là. Mais oui, en fait, quelqu'un me l'a déjà dit. Il est venu me voir, puis il m'a dit je vois vraiment en toi comme l'appel à être pasteur. Puis je sais plus, j'avais prophétisé sur ma vie ou juste comme ça. Parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt, oui, je suis allé faire la louange à plusieurs églises, on m'a invité à plusieurs endroits. Alors oui, j'ai rencontré aussi ce genre de personnes. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Je dis juste que je suis pas complètement sur ça, là.
Ouais. Ouais.
Je veux dire, si tu as une parole de la part de Dieu à me donner, gloire à Dieu, je suis tant mieux, c'est vraiment cool.
Il faut être ouvert à ce que les gens peuvent dire aussi.
Aha.
C'est sûr qu'on garde une certaine...
On l'examine.
On veut vraiment être sûr que...
Je ne vais pas commencer à vivre sur ça maintenant.
Non, c'est ça. Puis c'est ça, parce que souvent, puis je ne veux pas, comme tu dis, je ne suis pas contre ça, il faut juste s'assurer que les paroles qui viennent à nous de ce genre de prophétisation ou de gens qui prophétisent sur ta vie, bien, il faut s'assurer vraiment que ça vienne de Dieu. Puis souvent, ben, Dieu va mettre quelque chose aussi en toi avant même que tu reçoives une parole.
Exact.
Donc, c'est très touché, comme on dit ça, en français, ou très délicat. Prophétiser sur quelqu'un ou de dire ça, c'est ce que Dieu m'a dit pour toi. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que à la base, il doit avoir un appel de Dieu.
Exact, exact, donc, c'est vrai. C'est vrai. Puis comme je te dis, je suis pas contre ça, parce que j'en ai déjà vu des choses qui étaient vraiment extraordinaires. Puis je pense que Dieu peut agir comme il veut, absolument.
Exact.
Mais je pense juste qu'il ne faut pas nécessairement faire, par exemple, une doctrine ou genre, oh, cet homme-là va te prophétiser quelque chose, c'est sûr, parce que c'est un prophète. Mm-hmm. Ça, je peux.
Ouais.
Je suis réticent par rapport à ça. Mais bref, ce n'était pas ça la question.
Ça, c'est nos opinions, puis on a le droit à nos opinions. Il n'y a pas de problème.
Voilà, exactement. Avec beaucoup de respect, bien sûr. Ouais, ouais. Mais ce que je disais, c'est que plusieurs personnes, je voulais en venir à ça, plusieurs personnes me l'ont dit. Ils ont dit qu'ils ont vu ça en moi. Mm-hmm. Et alors, à cause de ça, entre autres, oui, je me suis posé la question moi aussi. Mais comme je te disais, certainement pour l'enseignement, je ne sais pas si. Je suis vraiment appelé à être pasteur. Peut-être.
Super. Ben, merci pour ton honnêteté. Et on verra bien ce qui se passe dans les prochaines années, dans le futur. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Et honnêtement, c'est un privilège d'apprendre à te connaître encore plus. Vraiment, merci de t'ouvrir ainsi. Alors, je sais que ce n'est pas nécessairement très facile pour tout le monde de le faire. Mais je crois que tant tes élèves ou les gens qui t'ont déjà côtoyé vont profiter de ce podcast afin de mieux te connaître à un autre niveau.
Ouais.
Et j'apprécie vraiment tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avant qu'on conclue ce podcast? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à cœur de dire peut-être à quelqu'un qui veut apprendre à étudier, à quelqu'un qui, je ne sais pas, qui que tu te vois, ou je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait recevoir quelque chose de ta part aujourd'hui, un conseil ou une motivation ou une phrase avec laquelle on pourrait terminer aujourd'hui?
Alors, ce que je pourrais dire, c'est vraiment, soyez discipliné. Donc, si vous voulez étudier la musique, si vous voulez surtout être dans le ministère, soyez vraiment discipliné. Rappelez-vous que ce n'est pas pour vous nécessairement que vous le faites, mais c'est une offrande que vous allez donner à Dieu. Votre musique, votre temps aussi, parce que souvent on se dit, ah, mon offrande, je vais la donner quand je vais aller jouer à l'église. Mm-hmm. Non, c'est toute la préparation que tu as eue avant. Et lorsque tu accumules des années de préparation, bien, c'est toutes tes années d'études, c'est tout ce que tu as fait durant ta vie pour apprendre à jouer ton instrument. Tout ça, c'est ton offrande envers Dieu. Alors, sois discipliné avec tout ça, parce que c'est ce que tu es en train de lui offrir. Alors, sois discipliné dans ton temps, dans ta pratique, dans ton apprentissage, que ce soit de la théorie ou de ton instrument. Vraiment, rappelle-toi que tu le dédié à Dieu et rappelle-toi que ce que tu fais, vraiment, ça doit être pour le glorifier aussi, lui, pour l'exalter, lui. Et moi, tout ce que je fais, personnellement, je le fais en me disant, mais c'est pour Dieu que je le fais premièrement. Même quand c'est une chanson qui n'a même pas de parole, quand c'est un projet qui n'est pas nécessairement pour l'Église, tout ce que je fais, tout le talent que j'ai réussi à développer, c'est quand même lui qui me l'a donné, puis c'est quand même à lui que je le redonne, puis c'est quand même à lui que je le dédie. Alors, guys, dédiez ce que vous faites à Dieu, puis faites-le avec le meilleur de vos capacités.
Super. Merci beaucoup pour ces paroles. Vraiment, je suis sûr que ça va interpeller plus d'une personne. Et si jamais, je sais que tu produis, tu fais beaucoup de travail. Est-ce que tu es rejoignable? Est-ce que tu es toujours ouvert à recevoir des gens qui veulent apprendre? Est-ce que tu es toujours en contact avec... Ou est-ce que ta porte est toujours ouverte à recevoir de la nouvelle clientèle, que ce soit de production, de n'importe quel genre, ou est-ce que pour l'instant tu t'es mis en pause ou tu as trop de choses? Comment tu te sens présentement? Et si tu veux, on peut te taguer, ton ministère aussi. Tu as une page YouTube, tu as un ministère avec ta femme. Tu as plusieurs choses, en fait, qui se passent dans ta vie. Donc, est-ce que tu veux qu'on te mette accessible à tout le monde? On va te taguer, comme je te dis, avec ton ministère, et les gens vont pouvoir t'envoyer un message.
Oui, oui, absolument. Je suis très joignable, je suis très, très accessible. Si je ne réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je n'ai pas pu. J'étais soit en studio en train d'enregistrer ou en déplacement, des fois, en auto. Oui. Alors, écrivez-moi, n'ayez pas peur. Si je ne peux pas, au pire, je vais vous dire, on va laisser pour un petit peu plus tard. Je ne vais jamais vraiment dire non à quelqu'un complètement. Okay. On va juste, on va en discuter. Puis, ouais, comme tu l'as mentionné, nous avons notre page, notre chaîne YouTube avec ma femme, où nous partageons, dans le fond, des chansons qui sont, dans le fond, des extraits de nos temps de louange personnelle. On prend un chant qui nous touche particulièrement, puis on le chante, puis on l'enregistre. Alors, oui, il y a ça aussi. Mais oui, je suis très joignable. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de répondre.
Super. Donc, c'est lancé. L'invitation, elle est là. À tous ceux qui veulent rejoindre Eduardo pour ses objectifs, pour parler, commenter, peu importe, sur le podcast, je vous invite à le faire. Également, à nous rejoindre sur Half Heads Coffee Break. Et Eduardo Roland, c'est le nom de la page YouTube. C'est
Eduardo et Roland, oui.
Oh, Eduardo et Roland. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Faites like, suivez-les, appuyez leur ministère. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce beau couple qui nous bénit si souvent avec leur chant et leur ministère. Donc, je vous invite à les suivre. Merci encore une fois, Eduardo. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec toi.
Merci à vous.
Au plaisir de te revoir et te revoir dans un podcast à nouveau pour un autre thème. Ça peut être encore de la musique, ça peut être quelque chose d'autre. Merci beaucoup et à très bientôt.
Absolument, à bientôt.
Merci. Hasta luego, Victor.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.